I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité à VO Afrique. Vous écoutez l'Amérique et vous. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale des États-Unis, au micro de présentation John Linden. Cette émission est produite par Joselle Maurice. Tout ou presque a été dit sur ce grand homme de l'histoire de la boxe qu'était Mohamed Ali. Mohamed Ali qui, en 1974, avait livré à Kinshasa ce qu'on qualifiait alors de combat du siècle. Son parcours, évidemment, et les souvenirs que beaucoup d'amoureux du ring gardent de lui sont légion. Aux États-Unis, en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, Mohamed Ali était considéré comme une légende du sport, un homme aux grandes valeurs, tant sur le plan sportif qu'humain. The Greatest, comme on l'avait finalement surnommé, nous a quitté le 3 juin dernier à 74 ans, après un combat de 32 ans contre la maladie de Parkinson, qui finalement l'a mis KO. Mohamed Ali effectue en ce moment même son dernier voyage à Louisville. Occasion pour nous, dans l'Amérique et vous, de revenir sur cette actualité. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique et pour nous accompagner au cours de cette émission ce soir, nous avons comme invité le premier Jean Lambernant. Jean Lambernant est journaliste camerounais très connu et respecté pour son franc-parler. Jean Lambernant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci Jean Lambert pour votre disponibilité. On sait que votre programme ce soir est très chargé. On va donc commencer tout de suite par vous. Quel souvenir vous laisse Mohamed Ali?
Disons que j'ai appris à connaître Mohamed Ali dès ma temps d'enfance. J'avais à peine 12 ans en 1974 lorsque, vous vous souvenez bien, toute l'Afrique entière a bougé au rythme de ce combat dit de la jungle entre Mohamed Ali et George Foreman. Et c'est comme ça que par petites bribes, l'information s'est disséminée sur le continent tout entier jusqu'au pays dont je suis le natif. Et nous avions appris que deux grands monstres de la boxe allaient s'affronter au Congo voisin, le Zaïre de l'époque. Et nous avons tendu nos oreilles pour entendre surtout l'avant-combat avec cette phrase mémorable de Mohamed Ali. Je volerai comme un lion et je le piquerai comme une abeille. Et les quelques images vidéo que nous avions reçues de quelques parents qui étaient qui disposaient d'un matériel vidéo nous ont fait voir un visage d'abord d'un homme très beau, contrairement à l'image qu'on se faisait des boxeurs, un visage douillé, enfantin, mignon, et une carrure qui ressemblait à toutes les carrures sauf à celle d'un boxeur. C'est comme ça que nous sommes tombés éperdument de celui qui était déjà une légende méconnue de nous autres et que nous avons commencé à le suivre, même s'il faut reconnaître que le combat de 1974 figure parmi un de ses derniers grands combats.
Alors, depuis 1974, est-ce que dans le monde de la boxe, il y a eu des combats qui ont attiré autant d'attention que celui-là?
C'est vrai que chaque siècle apporte sa vérité. Après Mohamed Ali, l'Afrique est tombée amoureuse de Mike Tyson, peut-être pas dans le même style, dans un style un peu plus brutal, un peu plus, permettez l'expression, sauvage. Et puis est venu Evander Holyfield. Mais je crois que la Mohamed Ali mania était plus forte parce que non seulement il combattait sur les rings, mais il disait combattre pour défendre les intérêts de la race noire. Et c'est ce révolutionnaire-là, ce rebelle de boxeur qui a enchanté les Africains et qui était tout autant emporté dans ce pourquoi il combattait. Et je crois que c'est pour ça que certes Mike Tyson était fort, était puissant sur le ring, et que Evander Holyfield était tout autant fort, mais Mohamed Ali a ajouté à son combat sur les rings une facette de combattant pour la libération de l'Afrique. Et je crois que c'est en fait qu'il pourrait emporter les suffrages.
Merci Jean Lambernon. Si vous pouvez, vous restez avec nous. Sinon, on vous dit merci pour la suite. Alors, on va accueillir depuis Paris Bob Sita. Bob Sita, bonsoir. Est-ce que Bob Sita est avec nous?
Oui, c'est vous, Bob.
Voilà. Alors, vous êtes entraîneur de boxe. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, techniquement parlant, dans ce que vous faites comme travail, à savoir entraîner les boxeurs? Voilà, je crois qu'on va vous reprendre un peu plus tard, le temps de d'améliorer la communication. On va prendre ici à Washington Eugène Pewa Pelema. Bonsoir Eugène.
Oui, bonsoir John.
Alors vous êtes à Washington, ici aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous retenez, vous, de Mohamed Ali?
Mais écoutez, très jeune, comme Jean-Albert, j'avais suivi ce combat de Kinshasa. Et en arrivant aux États-Unis, j'ai eu, je peux dire, la chance de le rencontrer en 91-92 quand il ouvrait sa chaîne alimentaire. Mais je crois que de lui, ce que je retiens, c'était pratiquement le seul athlète aux États-Unis qui a pu s'opposer dans des moments très difficiles, puisque c'était une époque où la ségrégation, qui est, on peut dire, la jumelle de l'apartheid aux États-Unis, empêchait aux Noirs d'être des humains comme les autres. C'était un peu conséquent des sous-humains. Et il avait été sanctionné. Et pendant cette période-là, il était pratiquement le seul, et jusqu'à ce jour, un athlète noir n'a jamais pu s'opposer à des choses qui se faisaient contre la race noire. Et je pense que le combat en dehors du ring était beaucoup plus important pour Ali, qui détestait l'injustice, parce que c'était pas seulement pour les Noirs, mais contre l'injustice contre toutes sortes de races. Et c'est ça dont je me rappelle le plus de Mohamed Ali.
Alors aujourd'hui, il entame, comme on dit très souvent, sa dernière marche. Quelle est l'ambiance qui prévaut ici aux États-Unis en ce moment par rapport à cette actualité?
Je crois que l'Amérique a rendu hommage à Mohamed Ali parce que son combat était juste. C'était un homme qui n'était pas motivé par la haine, mais qui était plutôt motivé par la justice. Et je crois que, quel que soit, il a pu toucher toutes les races aux États-Unis, que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, les blancs, les noirs, les asiatiques. Et je pense que de ce côté-là, tout le monde l'a reconnu. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, on a pu voir des gens au bord de la route l'accompagner à sa dernière demeure. On a pu voir des artistes, des athlètes, l'ancien président Bill Clinton. Malheureusement, le président Obama n'a pas pu participer à cette cérémonie car sa fille devait avoir son diplôme aujourd'hui. Mais je sais que il a fait lire un discours en son nom là-bas. Et donc, je peux dire que l'Amérique tout entière, pour ne pas dire le monde tout entier, a rendu hommage à ce grand homme que fut Mohamed Ali.
Alors, Eugène, une question qui me vient comme ça à l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, la boxe en tant que sport peut égaler d'autres disciplines? On a tendance à penser ou à voir que c'est plutôt le football, le soccer, comme on l'appelle en Afrique, qui prend du terrain. D'ailleurs, les ressources aujourd'hui.
Bon, en fait, la boxe, en termes financiers, ce sont des boxeurs qui gagnent les plus grands revenus. On peut voir ça. Mais le truc, c'est que le sport en tant que boxe, c'est un sport qui est très difficile, qui a des répercussions sur le corps, sur le plan physique. Et donc, c'est un sport qui n'est pas aussi pratiqué que le football, le basketball et, par exemple, l'athlétisme. Je pense que c'est à ce niveau que ça se passe. Mais en termes de revenus, je crois que l'athlète le plus payé fut un boxeur.
Alors, Alors, vous restez avec nous, Eugène. Je vais lire quelques réactions de Facebook. Celle de Mohamed Sanoussi qui dit « Mohamed Ali est une personne exemplaire du fait de son talent sur le ring. » En fait, il était, bien sûr, de sa réputation à la, aux yeux du monde, de ses convictions, de son savoir-faire. On a cette réaction aussi de El Capablo. « Quand le combat du siècle s'est déroulé en RDC, je pensais qu'on n'était pas encore né. Mais d'après l'histoire de notre Congo, j'ai beaucoup appris. » On a également cette réaction de Ahmed Kodjo qui dit il a été aussi, parlant de Mohamed Ali, dit il a été emprisonné après avoir refusé de participer à la guerre contre le Vietnam. Et voilà, on me fait signe qu'on a de nouveau Bob Sita au téléphone. Bob Sita, vous m'entendez parfaitement cette fois?
Oui, là je vous entends très bien.
Voilà, moi également. Alors moi, je disais tout à l'heure, vous êtes entraîneur de boxe et sur le plan purement technique. Déjà, je vais vous demander, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Mohamed Ali?
Bah, le souvenir que je garde de Mohamed Ali, c'est le combat qui fait ça, même si je n'étais pas né. Mais c'est un combat qui a marqué tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, l'humanité perd un grand homme, que ce soit dans le plan sportif où il a révolutionné notre sport, qui est la boxe, même d'autres sports. Aujourd'hui, oui, on est fan de Mohamed Ali par rapport à ses convictions et ses coups de gueule. Aujourd'hui, des hommes comme lui, je sais pas si y a encore d'autres personnes qui veut se revendiquer en tant que Mohamed Ali aujourd'hui. J'en vois pas exactement aujourd'hui. Ça va être dur. On a perdu un grand homme, en tout cas.
Ah oui, vous restez avec nous, Bob Sita. On va lire cette réaction de Facebook. Elle est de Alphonse Mboaki qui dit « Mohamed Ali nous a communiqué la passion de la boxe, sa forte personnalité. » Il savait dire non quand il le faut. Il a refusé de combattre au Vietnam. Il poursuit Mohamed Ali a fustigé les inégalités raciales en dehors de la boxe. Il a suivi les traces du pasteur Martin Luther King. Bob Sita, aujourd'hui, vous vous entraînez la boxe. Vous gardez comme souvenir ou technique de Mohamed Ali et qui aujourd'hui vous est utile quand vous entraînez, j'imagine, les jeunes?
C'est toucher sans être touchant, en fin de compte. Voilà.
Comment vous expliquez cela?
Pardon?
Comment vous expliquez cela?
Comment on explique? Mohamed Ali, il a livré quand même 61 combats professionnels. Il n'a jamais été marqué. Et sa force était son jeu de jambes. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais travailler avec mes élèves. Et moi, en tant que boxeur, beaucoup on me compare à son style un peu. Et dommage que vous êtes à Washington, je vous aurais fait montrer un peu les écrits des journalistes où j'avais une boxe aérienne, même si c'était pas la même catégorie. Voilà, c'était propre. Mohamed Ali a fait aimer la boxe à beaucoup de familles, même des gens qui détestaient la boxe, en le voyant bouger sur un ring, c'était comme si c'était de la danse. Donc on prenait plaisir à regarder Mohamed Ali. C'était un bel homme, c'est à 61 combats. Aujourd'hui, on voit quelques boxeurs qui sont marqués, et lui, il n'était pas beau, il était beau comme il disait, voilà.
Alors merci, Bob Sita, vous restez avec nous, on va prendre une petite pause et on va retrouver vous et bien sûr nos autres invités après.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Alors, on va prendre un auditeur au téléphone, Bakary Keïta. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vous écoute, Mohamed Ali, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes avec nous, Bakary? Voilà, on a perdu Bakary. On va prendre probablement Eugène. Eugène, vous êtes avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe, je vais parler des États-Unis ou même d'Afrique, des boxeurs qui peuvent avoir aussi autant d'influence que Mohamed Ali?
En fait, je pense que dans tous les sports confondus aux États-Unis, de nos jours, il y a malheureusement aucun athlète de la trempe de Mohamed Ali, même si à la limite, on pourrait parler par exemple de LeBron James dans le basketball, qui a fait des grandes choses pour sa communauté en donnant 60 millions pour permettre l'éducation. Mais se lever pour combattre pour des causes, par exemple aujourd'hui il y a le problème de Black Lives Matter, ça fait des années, il y a eu des assassinats contre des jeunes par des policiers, ainsi de suite. Il y a très peu de gens qui prennent le courage de venir de l'avant et parler avec autant de conviction pour dénoncer certaines choses, mais aussi avec le respect. Et on ne voit plus ça de nos jours. Et c'est ce qui est vraiment très dommage. En Afrique, je ne me rappelle pas, mis à part Nelson Mandela, parce que pour moi, Mohamed Ali, pour moi, je le vois un peu comme un Nelson Mandela, mais des États-Unis. Et ce sont des gens, un a vécu l'apartheid, l'autre a vécu la ségrégation, et ils ont mené des combats au risque de leur vie. Parce que ce que Mohamed Ali faisait à cette époque, pendant la ségrégation, c'était très risqué. Et je pense que des gens comme lui, c'est rare de les voir. Il a quand même vécu, il faut se rappeler qu'à son époque, on a tué Martin Luther King, on a tué Malcolm X, on a tué Robert Kennedy. Et malgré ça, il a toujours continué à mener ce combat, qui était un combat de liberté, un combat des égalités, et je crois que c'est unique.
Alors, on a retrouvé Bakary Keïta au téléphone. Bakary, bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir.
Allez-y.
Je m'incline déjà d'abord à la mémoire de Mohamed Ali. Le monde vient de perdre un grand baobab qui a laissé une trace indélébile en Afrique lors de son combat du 30 octobre 1974 à Kinshasa contre George Foreman. En plus, l'homme était philanthropique et humble surtout. Mais cette icône de la boxe vient de périr face au coup de poing et au pugilat de la mort. Drago Diop n'a-t-il pas raison en disant que les morts ne sont pas morts?
Oui, effectivement, Mohamed Ali fait partie de ces morts qui ne sont pas morts. On espère qu'il sera toujours avec nous. Bob Sita, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans les rings, on se pose souvent beaucoup de questions. C'est une question banale. Hein? Un combat de boxe, des gens qui se battent comme ça, on a envie de dire pour rien. Quel est l'état d'esprit lorsque vous entrez dans un ring et commencez à boxer? Il faut que quelqu'un vous insulte, que vous pensez à quelque chose de méchant, je ne sais pas, pour que vous puissiez être engagé. Comment ça se passe?
Non. Tout d'abord, c'est un sport qu'on pratique. Après, à ce niveau-là, une fois qu'on est professionnel, c'est un travail. C'est comme toute personne qui part à son lieu de travail, sauf que nous, les boxeurs, c'est sur un ring où les règles sont bien définies. Et voilà, c'est pas où on vient, c'est la bagarre de rue. Non, c'est les règles sont définies. Voilà, après c'est celui qui s'entraîne, qui a la volonté, qui gagne. Et voilà, c'est ça qui a révolutionné Mohamed Ali en regardant. Les gens, ils ont amélioré leur technique. Et voilà, c'est pour ça aujourd'hui on a des très beaux combats aussi. Et mais c'est vrai que personne ne remplacera Mohamed Ali. Que Mike Tyson, c'est vrai que c'est une légende aussi, mais Mohamed Ali, il a marqué des générations. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vu des combats de Mohamed Ali, et voilà, qui sont fans de Mohamed Ali, qu'on parle de Mohamed Ali partout, même ici en France. C'est voilà, un gamin de 6 ans connaît Mohamed Ali alors qu'il n'a jamais vu son combat.
Alors, Eugène, une question. Mohamed Ali s'est converti à l'islam et je voudrais ici saluer tous ceux qui viennent de commencer le ramadan. Mais dans un pays où, en pleine présidentielle, un des candidats a tenu des propos assez forts contre les musulmans et aujourd'hui l'Amérique est en train de rendre hommage à quelqu'un qui s'est converti à l'islam, comment vous trouvez tout cela?
Bon, d'abord, de toute façon, la religion, je crois que c'est personnel. Il faudrait d'abord voir dans quelles conditions Mohamed Ali est devenu musulman. Comme je le rappelle, c'était pendant la ségrégation où il y avait le Ku Klux Klan, où la Bible était utilisée pour persécuter les Noirs, d'une certaine manière, puisque dans certains propos de la Bible, les gens interprétaient ça comme si les Noirs devaient être étaient des êtres inférieurs. Et le Ku Klux Klan était un groupe suprémaciste, si vous vous rappelez, quand il commettait des forfaits, il brûlait une croix. Et je crois que c'est toute cette injustice qui a amené Mohamed Ali et de même Malcolm X, qui fut quand même le fils d'un passeur, qui a été exécuté, et qui justement a rencontré l'islam. Lui, il avait rencontré l'islam en prison. Mohamed Ali, à cause de toutes ces injustices, a rencontré l'islam d'une autre manière, et c'est comme ça qu'il est devenu musulman. Mais aux États-Unis, c'est un pays où il y a plusieurs religions qui sont pratiquées, toutes les religions sont pratiquées. Malheureusement, ça devient politisé parce que les gens utilisent ça comme un moyen pour effrayer les gens, et c'est ce qui est malheureux. Mais en ce qui concerne la foi, Mohamed Ali a toujours aimé les autres. D'ailleurs, il était très proche des juifs, des chrétiens, de tout le monde. Donc, je pense que l'homme lui-même, Mohamed Ali, n'a jamais eu ce problème-là.
Alors, cette réaction de Mohamed Kamara qui dit sur Facebook, « Mohamed Ali était une légende et une fierté de la race noire aux États-Unis. » Une autre réaction, celle-là de Malek Moussouni, il dit « Un grand homme, un grand boxeur. Il a eu le courage de militer pour la cause des Noirs aux États-Unis et ailleurs. Il a ouvert sa gueule, ce qui a déplu à l'establishment blanc. » Critiquer la guerre du Vietnam. C'était aussi une personne qui a mis sa notoriété au service des démunis. Bob Sita, quand vous combattez, vous, aujourd'hui, est-ce que il vous arrive de rêver d'avoir parmi des gens que vous entraînez un Mohamed Ali?
Ah, c'est le rêve de tous les entraîneurs, je pense. Et voilà, malheureusement, bah, aujourd'hui, on a des grands champions, mais pas au niveau de Mohamed Ali. Voilà, Mohamed Ali sera irremplaçable. Et voilà, c'est la chance. On aimerait bien voir un boxeur, oui, qui parle comme Mohamed Ali, qui bouge comme Mohamed Ali, qui a une grande gueule comme Mohamed Ali. Mais malheureusement, voilà, c'est la boxe, c'est plus que c'était avant, et l'écho, c'est pas les mêmes non plus que Mohamed Ali a défendu. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, il y a toujours du racisme, il y a toujours tout ça, mais bon, les gens, on trouve des mots, on essaie de combattre en autre manière. Maintenant, avoir la grande gueule comme Mohamed Ali, c'est pas
de nous.
Je vois pas.
Alors, on va prendre un auditeur. Il s'agit de Nestor. Nestor, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on vous écoute. Votre avis sur que vous inspire Mohamed Ali?
Je me suis vraiment une jeune figure, une vraie sportive. Je me suis vraiment fait beaucoup de choses sur le plan d'abord sportif, je peux dire, parce qu'il était vraiment mon modèle. Mon vieux parent, il a inspiré beaucoup de gens, imaginez que je ne sais pas dans quel état se trouverait, ceux qui encadrent, par exemple, ces élèves, je ne sais pas vraiment. Je me suis vraiment fait un modèle. Et en plus de ça, je me fais vraiment sur le plan religieux, vraiment, il n'y a rien à dire par le fait que
voilà.
Ce monsieur, c'est vraiment une incarnation vraiment de l'islam. C'est la raison pour laquelle vraiment, c'est rare de voir des sportifs de ce genre.
Merci Nestor. Merci Nestor, la communication n'est pas assez bonne. Eugène. Mohamed Ali n'était pas seulement boxeur, on lui reconnaît aussi des qualités humaines, d'autant plus qu'il a contribué à plusieurs niveaux à soutenir sa communauté. Sur ce plan-là, qu'est-ce que l'Amérique et le monde peut, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de Mohamed Ali?
Avant de répondre à cette question, j'avais oublié de dire quelque chose. Mohamed Ali était une personne qui était extrêmement intelligente. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui a fait de la boxe, qui n'a pas réellement fait des études, c'est vraiment un autodidacte, et qui a pu tenir des propos hautement intelligent. Et justement, par rapport à ses actions pour l'humanité, je me rappelle encore de son implication dans la libération des otages en Irak en 91, pendant la première guerre du Golfe. Mais sa participation à régler des divisions qui entre les communautés de façon permanente, témoigne de son envie. En fait, c'était un peu considéré comme un homme très humain, hein, qui voulait justement un rapprochement de toutes les races et qui ne faisait aucune distinction, puisqu'il avait des gens, des amis dans toutes les différentes, dans toutes les différentes races.
Alors, Bob, on tire à la fin de cette émission. S'il y avait un message ou un conseil à donner à ceux qui s'intéressent à la boxe, j'imagine la nouvelle génération, qu'est-ce que vous leur direz?
Bon, la boxe, c'est l'école de la vie. Et voilà, quand on regarde les modèles qu'on a comme Mohamed Ali, les icônes qu'on a, voilà, c'est un sport que je conseille à tout le monde. C'est... Voilà, ça, il y a un mental et voilà, il y a beaucoup, on travaille beaucoup, c'est beaucoup de rigueur et voilà, la boxe en gros c'est l'école de la vie. Voilà, si j'avais un dernier mot à dire, ce sera ça, c'est l'école de la vie. Voilà, c'est la rigueur et le travail et voilà.
Est-ce qu'il y a un
âge pas tricher à la boxe?
Est-ce qu'il y a un âge où il faut commencer à boxer quand on est jeune?
Il n'y a pas d'âge à la boxe. Aujourd'hui, en France, hein, je parle, il y a baby box. Aujourd'hui, on a inventé des nouvelles méthodes d'entraînement. Il y a de la boxe en contact,
okay,
qui attire des adultes,
merci,
qui ont 77 ans.
Merci Bob.
Et voilà, la boxe.
Merci Bob. Je vais demander à Eugène de dire un dernier mot en quelques secondes.
De toute façon, je vais tout simplement dire merci à Mohamed Ali pour l'homme qu'il a été dans ce monde dans lequel nous vivons.
C'est la fin de cette émission de L'Amérique et vous. Joselle Morrison était à la production. John Lyndon était à la présentation. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Restez à l'écoute.